Un printemps des poètes, deux langues anglaises, Walt Whitman et William Shakespeare, monde érotisé pour le premier, verbe pornographique pour le second, avec pour en parler le poète et traducteur Jacques Darras et l'universitaire et non moins traducteur Jean-Pierre Richard.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. Jacques Darras, Jean-Pierre Richard, bonjour. Bienvenue à tous les deux pour une heure, comme on peut l'entendre, hein, en public au salon Livre Paris qui se tient ici, porte de Versailles, jusqu'au 18 mars. Une heure placée sous le signe du printemps des poètes avec Jean-Pierre Richard, shakespearien, disons, convaincu. Hein, on vous doit de nombreuses traductions, dont une étroite collaboration à l'édition bilingue des œuvres complètes dans la bibliothèque de la Pléiade. Shakespearien convaincu, disais-je, mais à l'esprit le plus mal tourné possible. C'est en tout cas ce que nous signale votre essai, Shakespeare pornographe, qui paraît aux éditions Rue d'Ulm. Hypothèse, sous son théâtre se cache ou se cacherait de façon délibérée et permanente un sous-texte obscène, dont vous faites en véritable spéléologue, comme vous dites, analyse et commentaire, pièce par pièce, mot par mot, double sens par homophonie. Où l'on apprend donc qu'à bien écouter et bien lire, Richard II commencerait par une scène d'éjaculation, que voice peut tout aussi bien vouloir dire pénis, hein, ou s'entendre vice, ear dire derrière, que holy a vite fait de s'entendre hole, que cette pornographie a ses principes, ses matériaux, ses techniques, ses effets, et que surgit alors un autre théâtre, une autre dramaturgie, ingénieusement liée au premier. Avant que de s'en occuper dans la seconde partie de l'émission, Jean-Pierre Richard, de quoi parle-t-on quand on parle de principe d'obscénité? Qu'est-ce que vous logez dans ce mot-là, dans ce mot d'obscénité, qui semble davantage vous convenir d'ailleurs que celui de pornographie?
Pornographie me plaît bien parce qu'il s'agit d'écriture. Et pornographie, c'est en grec l'écriture autour de la prostituée. Et en fait, j'ai, à force de traduire Shakespeare, était très frustré par le fait que je n'arrivais pas à traduire le sous-entendu sous ce qu'on entend à la scène. C'est-à-dire qu'au fil des pièces, il y a toujours un sous-texte qui donne dans l'obscénité. Et c'est, à mon avis, le substrat essentiel de la dramaturgie shakespearienne. C'est-à-dire que l'obscénité produit le théâtre. Et c'est ça que je me suis attaché à montrer dans ces livres.
Et c'est là que les ennuis, j'imagine, du traducteur commencent également. Alors, poésie et Shakespeare, ça tombe bien, Jacques Darras, poète, mais néanmoins angliciste. Vous êtes de ceux qui ont bravé, disons, la réputation d'intraduisibilité des sonnets de Shakespeare en livrant il y a peu une version. Hein, c'était pour les éditions Grasset. Qu'est-ce qui ne va pas, comme vous le dites, à l'écoute, un entretien sur la poésie de la langue anglaise et sa traduction qui vient juste de paraître au Castor Astral, qu'est-ce qui ne va pas décidément dans la langue française à propos de Shakespeare?
C'est précisément parce que ça ne va pas que ça excite tellement les traducteurs. Je ne sais pas si on a déjà fait le compte du nombre de traductions de la poésie de Shakespeare et en particulier des sonnets de Shakespeare. Ça doit se chiffrer par centaines. C'est un exercice presque consacré auquel se livre tout traducteur qui se respecte. Alors, quand on est shakespearien, comme Jean-Pierre Richard, bien évidemment. Moi, je suis devenu shakespearien sur le tard, si je puis dire. J'ai découvert son théâtre à l'âge de 40 ans, ce qui est vraiment tardif. Et pour ce qui est des sonnets, j'ai fait un premier essai de traduction alors que j'habitais la ville de Calais et que j'avais un appartement en front de mer et la Manche me séparait de l'Angleterre dont je voyais les falaises blanches de Douvres par beau temps, par journée de beau temps. Et j'écrivais mes traductions avec l'invocation et la présence fantomatique de Shakespeare se tenant sur la falaise de Douvres de l'autre côté. Et puis, j'en ai traduit 30. Et puis, de façon assez inexplicable, 30 ans plus tard, je me suis dit, mais pourquoi n'en ai-je traduit que 30 ? Et donc, je me suis attaqué à l'ensemble des sonnets. Et là, je me suis aperçu que même s'il y avait énormément de traducteurs, c'était un morceau d'une difficulté considérable. Alors que je traduisais et que je publiais ces sonnets chez Grasset, en même temps que moi, un autre poète belge, William Cliff, grand poète, il en fut, et également Frédéric Boyer, je crois, oui, directeur de collection maintenant à la suite de Paul Tchaïkovski-Laurence, traduisait les sonnets de Shakespeare. Donc, au moment même où je publiais chez Grasset ma traduction, il y avait deux autres traductions concurrentes ou complémentaires, comme on voudra, qui paraissaient en public, dans le domaine public. Alors, Shakespeare, pour les sonnets, je crois que ce qui rend les choses difficiles, je ne sais pas si mon voisin sera d'accord, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord la difficulté du décasyllabe anglais, qui contient énormément d'informations. C'est un décasyllabe qui rime, et alors que le théâtre de Shakespeare est un théâtre en vers blanc, en quelque sorte, la plupart du temps, du moins. Et c'est une langue, et c'est un monde plein de sous-entendus, comme l'a dit mon voisin, plein de sous-entendus, plein d'équivoques, de la pornographie, ou du moins de l'érotisme, en tout cas, et avec une finesse dans le choix des termes, dans le choix des mots, qui fait que c'est une véritable musique. Et comment traduit-on la musique dans une autre langue, d'une autre langue, dans la sienne propre ? Alors que c'est une langue accentuée, une langue tonique, alors que le français, c'est ce qu'il me semble à moi du moins, est une langue qui s'efforce d'être la plus faussement humble qui soit, la plus plate qui soit, la plus dénuée de relief et d'accident. Et ça, c'est véritablement une gageure que de traduire cette langue tonique, scandée, d'une finesse sans pareille, dans un français qui ne peut pas s'empêcher d'être classique, car il y a Shakespeare est le contemporain quasiment de gens comme Dubélé, enfin il est un peu plus tardif, et donc on est automatiquement poussé quand on le traduit vers le meilleur de la Pléiade, vers Dubélé essentiellement, qui est un immense poète français, et vers Ronsard. C'est très très difficile, mais c'est parce que c'est difficile que c'est excitant.
Jean-Pierre Richard, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose sur ce qui ne va pas dans la langue française.
Justement. Oui, je prends l'exemple d'un des sonnets que Jacques Darras a traduit, le 135, je crois, où il y a 11 fois le mot « will ». Et « will » en anglais, alors c'est polysémique, c'est à la fois la volonté, le désir sexuel, mais aussi le pénis. Et c'est aussi le prénom de Shakespeare. Et comment Jacques Darras a fait ?
Ben, comment Jacques Darras a fait ? Il s'en souvient plus.
Et moi j'ai regardé, il a joué sur le mot « outil »,
ah oui,
qui est assez suggestif, et « utile ». Donc il y a à la fois une ressemblance pour l'œil, quand on lit le texte, et pour l'oreille, quand on l'entend. Et ça marche plutôt bien. Mais c'est un défi permanent. Quand on traduit 39 pièces, il est quasiment impossible de restituer le jeu entre ce qui s'entend à la scène et ce qui est sous-entendu. Et mon livre est le déversoir du traducteur. C'est-à-dire, c'est un complément que j'estime nécessaire pour moi pour dire ce qui, dans mes traductions, n'est pas passé.
On va en reparler, bien sûr. Alors, avant de plonger dans le vers anglais, et puis on va parler de Whitman, évidemment, d'ailleurs, peut-être une petite parenthèse. Quel lecteur de Shakespeare était Whitman, hein? Parce que vous le citez, hein, dans la préface aux Feuilles d'herbe, où on cite Whitman se promenant dans les rues, récitant Shakespeare à voix haute.
Je crois que, comme tout poète de langue anglaise, il avait lu Shakespeare. Alors, qu'avait-il lu de Shakespeare? Je ne saurais pas vous le dire précisément. Mais il est certain que cette façon, comment dire, théâtralisante d'utiliser la langue américaine, ou plutôt anglo-américaine, elle vient directement, me semble-t-il, du théâtre de Shakespeare. Il y a chez Whitman en particulier cette façon de s'adresser au lecteur comme s'il était un personnage d'une pièce, comme s'il était un personnage de la pièce existentielle que nous vivons tous. Il y a une conception théâtrale de la poésie qui est véritablement quelque chose de totalement nouveau dans ce qui concerne la poésie lyrique européenne, pour ne pas dire mondiale. C'est ça qui fait la grande nouveauté, la grande irruption, car franchement, je relisais le texte de Whitman en prévision de cette rencontre, on a vraiment l'impression que ce texte...
Vous parlez de feuilles d'herbe. Hein,
de Whitman, des feuilles d'herbe. Il court devant nous. Whitman est quelqu'un qui est en avance sur nous. Nous sommes au 21e siècle, il a écrit au 19e siècle. Moi, je pense qu'il a un siècle d'avance. Et peut-être qu'il en sera toujours ainsi. On a vraiment l'impression, le lecteur a l'impression d'être toujours en retard sur la liberté inconsidérée de Walt Whitman. Donc oui, il y a, et c'est fabuleux de réunir un shakespearien et un whitmanien, il y a là, dans la langue anglaise, deux grands moments, deux grands auteurs qui correspondent à deux moments historiques différents. Il y a William Shakespeare pour la Renaissance et il y a Whitman pour l'irruption de l'Amérique sur la scène mondiale.
Qui sont un peu les deux vôtres. Hein. On va y revenir, Jacques Darras.
Ah oui, j'affirme des choses qu'il ne faut pas nécessairement croire ou qu'il ne faut pas nécessairement prendre pour argent comptant. Il y a un petit côté polémique dans ce que je dis.
Alors, on va évidemment y revenir. On va revenir à Whitman. Peut-être juste un petit détour, et ça ne sera sans doute pas le dernier, du côté du Printemps des Poètes qui fête ses 20 ans cette année et qui place son programme sous le signe de la beauté, avec une majuscule, j'imagine, alors un peu marronnier s'il en est, beauté par laquelle une histoire de la poésie pourrait, j'imagine, bien s'écrire, y compris par son envers et par sa destruction. Vous y répondez, Jacques Darras, par un poème qui paraît dans l'anthologie « Pour avoir vu un soir la beauté passer », qui paraît au Castor Astral. Avant de vous entendre le lire, Jacques Darras, quel sens prend ou prendrait cette beauté aujourd'hui, dès lors qu'on parle de poésie, donc après le XXe siècle? Qu'est-ce que ça voudrait dire que d'en parler après le XXe siècle?
Oui, c'est la question. C'est une idée magnifique. C'est un thème absolument, splendide. Mais c'est en même temps un thème extrêmement difficile. Lorsqu'on est un poète contemporain et qu'on figure au milieu des 62 autres poètes de cette anthologie du Castor Astral,
qui ne sont que des poètes vivants, à l'exception de Frank Venaille,
oui,
bien
l'exception
sûr.
À l'exception de trois d'entre eux, qui viennent de mourir en février. Je les cite parce qu'il faut, les lire dans cette anthologie. Il faut leur rendre hommage. Il y a Frank Venaille, il y a Marie-Claire Bancard et Antoine Aimaz, qui sont trois des poètes marquants français du XXe et du XXIe siècle, et qui viennent cruellement de disparaître au mois de février, dans les semaines qui nous précèdent. Donc la beauté, je dirais que c'est un thème qui a une difficulté d'évidence. C'est tellement évident, la beauté, que c'est un thème poétique extraordinairement difficile à approcher. D'autant que il y a de grands ancêtres. Les grands ancêtres, ce sont les romantiques. J'en cite encore un anglais, je n'y peux rien. C'est John Keats. John Keats a écrit en particulier une ode sur un vase mortuaire grec, et dans lequel il termine ainsi, c'est très célèbre en Angleterre, peu connu en France, « La beauté, c'est la vérité, c'est la beauté ». Alors ça, c'est à la fois évident et en même temps c'est discutable, surtout au XXIe siècle. C'est une vision que je qualifierais de néo-platonicienne, ou plotinienne, c'est-à-dire c'est la beauté intelligible. Mais à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, il y a un autre poète de langue anglaise, je n'y peux rien, prix Nobel de poésie, William Butler Yeats, qui écrit ce qui, à mes yeux, est véritablement le plus beau poème politique jamais écrit. Easter 1916, Pâques 1916. En quelques mots, de quoi s'agit-il? Il voit des voisins qu'il salue en passant dans la rue, et d'un seul coup, il apprend que ses voisins sont des terroristes. Et c'est un sujet qui est, on ne peut plus d'actualité, d'une certaine façon. Mais c'est un terrorisme qui va donner naissance à la République d'Irlande. C'est un terrorisme, comment dire, avec beaucoup de guillemets, utile. Un terrorisme politique utile, si tant est que ça puisse être le cas. Et alors, il y a un vers que l'on sait par cœur et que l'on répète, qui est le suivant. J'essaie de le traduire en français, là, difficile. « A terrible beauty is born ». Une beauté terrible vient de naître. Une beauté plutôt de terreur vient de naître. Et là, nous ne sommes plus dans la beauté. C'est un oxymore, c'est une contradiction. Nous sommes dans ce qui me semble être le sens de notre époque, le sublime. C'est véritablement, ça, je renverrai, sans vouloir paraître pédant, au grand, la critique du jugement de Kant, qui fait une distinction entre la beauté classique, fonctionnelle, et le sublime, qui touche à la représentation. Nous sommes dans des beautés irreprésentables, tellement violentes qu'elles dépassent la beauté. Nous sommes entrés dans un monde de sublime, irreprésentable. On ne peut pas se représenter ni représenter la terreur, voire nos actualités contemporaines. Donc, c'est à la fois un thème, comment dire, évident, qui renvoie à un monde classique, un monde de stabilité. Écoutez ce quatrain de Baudelaire. « Je suis belle au mortel comme un rêve de pierre, et mon sein où chacun s'est meurtri tour à tour,
est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet, ainsi que la matière. »
Et donc, il ne parle Merci, pas messieurs. De la beauté, il fait parler la beauté. C'est la beauté sujet que l'homme ne peut que contempler dans une sorte de mutisme total. Et un peu plus loin, il dit, beauté, n'est-ce pas, tu m'as... Comment dire j'essaie de retrouver en disant que là, c'est dans l'hymne à la beauté...
On n'aura pas le temps de vous entendre, Jacques Darras.
Elle marche sur des morts. Elle marche sur des morts. Eh bien, on est déjà dans le sublime. On a déjà quitté le monde classique pour entrer dans le romantisme politique où nous sommes, dans les bas-fonds, dans l'enfer du XXe siècle. Alors, disons, utilisons la catégorie de sublime si nous pouvons, mais ça dépasse la beauté.
Alors, juste toute petite précision, hein, il s'agissait bien de Yeats, d'un poète de langue anglaise, hein, étant entendu qu'il est irlandais. Rythme encore, Miles Davis, I Waited for You, 1975. Miles Davis comme la langue anglaise, hein, celle que vous vous êtes choisie tardivement, Jacques Darras. Après des études, disons, conflictuelles de philosophie, l'anglais, son enseignement, sa traduction comme échappatoire, hein, ou tangente à la philosophie. L'anglais comme écoute, à l'écoute, c'est le titre que prend l'entretien mené avec vous par Richard Siebers, hein, sur votre relation à la poésie de langue anglaise, qui paraît au Castor Astral. Ça veut dire que traduire, c'est d'abord pour vous, Jacques Darras, écouter avant que de lire.
Ça veut dire que tout traducteur est un écouteur de langue. Il est important d'entendre le rythme de la langue. Pour moi, le poème, la poésie est d'abord du rythme, essentiellement. C'est même plus que de la musique, c'est du rythme. C'est le battement fondamental. C'est ce que Paul Claudel appelait l'iambe fondamentale. Et il disait, c'est pas difficile, la poésie, c'est votre cœur, votre organe, le cœur. C'est touc-touc, touc-touc, touc-touc. c'est le battement du sang. Alors moi, j'en parle d'autant mieux que, justement, j'ai eu un grave accident cardiaque et que donc je sais ce que c'est que le rapport entre le cœur, le battement du sang dans le cœur et la poésie. C'est quelque chose de... C'est au-delà du physique, même, d'une certaine façon. Ça dépasse le corps physique dans ses mouvements. Et en tant que tel, je m'affilie à Walt Whitman, qui est le premier grand poète du corps. Je suis le poète du corps et je suis le poète de l'âme,
dit-il. Mais vous dites aussi que c'est le premier poète de la parole.
C'est le premier poète de la parole. Et c'est une parole libre, d'une liberté absolue. Il y a cette chose extraordinaire. Il s'adresse au président. Et pourtant, il adorait le président Abraham Lincoln. Et il dit, tu es le président ou es-tu le président? Pas de quoi pavoiser. Tout le monde te rejoindra un jour. Tout le monde te distancera. C'est ce que j'appelle l'égalitarisme métaphysique. C'est le premier grand poète de la démocratie. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a vraiment pas d'autre poète de la démocratie. Hugo est un républicain sur la fin de sa vie. Whitman est le premier et le seul poète démocrate à ma manière, à ma façon, selon moi.
Jean-Pierre Richard, vous n'avez pas forcément l'air d'accord ?
Si, tout à fait. C'est un peu loin des préoccupations pornographiques shakespeariennes.
Pas tant que ça.
Corps sexué, il est le premier à parler du sexe, Whitman. Et d'autant plus que, alors, sous forme, dit-on, un peu déguisée, parce qu'il était vraisemblablement, je mets des guillemets, homosexuel, mais il est le premier à parler
indiscutablement,
du corps,
Whitman.
Des organes génitaux de l'homme et de la femme. Il les cite. Mais quand on pense en 1855, dans l'Amérique puritaine de l'époque, dans l'Europe coincée de l'époque, c'est le Second Empire en France. Et donc Baudelaire se fait quasiment condamné pour des poèmes érotiques sulfureux. Et Whitman, lui, il passe tout en contrebande, pardon, à ciel ouvert, comme ça. Il chante le corps. I sing the body electric. Je chante le corps électrique.
Vous voulez bien, Jacques Darras, peut-être nous en lire un court extrait.
La fin de ce poème. Je fais don de moi-même à la boue pour grandir avec l'herbe amoureuse. Cherchez-moi sous vos semelles si vous voulez me retrouver. Qui je suis, quels sont mes buts, ça, vous ne le saurez pas. Cependant, je voudrais du bien à votre santé. Quoi qu'il arrive, je serai le filtre, la fibre de votre sang. Ne soyez pas découragé par l'échec dans votre poursuite. Vous ne me trouvez pas d'ici ? Dans ce cas, courez plus loin. Je suis quelque part immobile. Je vous attends.
Ce sont les derniers vers de la chanson de moi-même. Donc c'est votre traduction, Jacques Darras. Oui, ce sont les tout derniers vers. On parlait tout à l'heure de ce qui n'allait pas dans la langue française à propos de Shakespeare. Donc, avant Shakespeare et ses sonnets, il y aura eu, pour ce qui vous concerne, Jacques Darras, William Carlos Williams, on n'aura pas le temps d'en parler, Blake, bien sûr, Coleridge, et puis finalement Whitman. Whitman, à l'héritage duquel vous vous êtes aussi intéressé. Je pense, par exemple, à cette voix que vous avez souhaité entendre, celle d'Allen Ginsberg, disant son poème « A Supermarket in California », donc un poème paru écrit en 1956. On en écoute les tout premiers vers.
« What thoughts I have of you tonight, Walt Whitman, for I walked down the side streets under the trees with a headache, self-conscious, looking at the full moon. In my hungry fatigue and shopping for images, I went into the neon fruit supermarket dreaming of your enumerations. What peaches and what penumbras, whole families shopping at night, aisles full of husbands, wives in the avocados, babies in the tomatoes, and you, Garcia Lorca, what were you doing down by the watermelons? I saw you, Walt Whitman, childless, lonely old grubber, poking among the meats in the refrigerator and eyeing the grocery boys. I heard you asking questions of each. Who killed the pork chops? What price bananas from Honduras? Are you my angel? I wandered in and out of the brilliant stacks of cans following you, and followed in my imagination by the store detective. We strode down the open corridors together, possessing every frozen delicacy.
Un extrait de Supermarket in California, donc la voix d'Allen Ginsberg hein, qui imagine rencontrant Garcia Lorca et Whitman dans un supermarché hein, au milieu des légumes, hein, au milieu de ce temple de la consommation. Qu'est-ce qu'un tel déplacement pourrait raconter de Whitman, de la lecture de Whitman? Dit autrement, qu'est-ce qu'un tel poème vous permet à vous, Jacques Darras, de dire à nouveau de Whitman hein, en le faisant entendre.
1855, c'est Les Feuilles d'herbe, la première édition.
C'est la première édition.
1955, c'est Howl, le poème que j'ai là, dans un coin.
Le poème de Ginsberg.
Le poème de Ginsberg. 100 ans sépare Whitman de Ginsberg. Et Ginsberg a sa façon douce, il a une voix douce. On ne l'entendait pas vraiment bien, mais il a une voix très douce, Ginsberg. Je l'ai entendu, je l'ai filmé. Je l'ai vu et approché à Queen's University sur Long Island. Et donc, c'était un homme qui avait une grande douceur, une grande liaison, dans quelque sorte. Et on dit que Whitman avait une voix également douce lui-même. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, il pose la question à Whitman, « Qu'est-ce que tu fais dans un supermarché ? Qu'est-ce que tu fais dans cette Amérique qui est complètement... vérolé par le capitalisme et la consommation. » Et là, il y a quelques jours, le TLS, c'est-à-dire le plus grand journal de langue anglaise, vient de publier une question-réponse qui a été posée à Whitman en 1890. Et j'aimerais bien, ils l'ont reprise sans commentaire. Et j'aimerais bien vous la lire, en quelque sorte. Il y a juste une question.
Je vous en prie.
Question. Comment voyez-vous la situation actuelle aux États-Unis ? Pose la personne qui pose la question. Walt Whitman, c'est ce qu'il a répondu en 1890. Je ne sais pas où va nous mener notre frénésie d'argent. Un pur avilissement. L'absence de limite dans l'appât du gain. L'appétit démesuré de richesse. Cette manière de s'engraisser des infortunes des autres, regardez la politique, proprement puant. It stinks, dit Whitman. Nous sommes en 1890 et le TLS, il y a une semaine, a malicieusement reproduit cette réponse de Walt Whitman pour montrer qu'il n'était pas d'accord déjà dès l'origine avec la direction qui était prise par les États-Unis déjà à l'époque.
Pourtant,
encore que.
Par ailleurs, il n'était pas sans contradiction non plus, Whitman.
Mais il disait, je me contredis.
À ce sujet.
Oui. Ah, je me contredis. Ah, ben, soit je me contredis. De toute façon, je suis immense, disait-il, avec pas mal de vanité et d'humour. Je suis immense, je contiens des foules, des multitudes. Whitman, c'est la naissance de l'homme pluriel. Il ne dit pas comme Rimbaud, je est un autre. Il dit, je est tout le monde. Et je et tous les autres, moi je préfère.
Tout coule, tout fuit, tout est conçu de telle façon qu'aucun fil n'est réellement décelable sur lequel on pourrait tirer démaillant d'un coup la toile. C'est ce que vous écrivez à propos de Whitman et de la difficulté à le traduire. Qu'est-ce que ça implique justement que cette fluidité, que cette façon de couler, de fuir, de filer pour qui veut traduire Whitman ?
Oh, c'est extrêmement difficile. Il faut. Écoutez, je ne peux répondre que par mon exemple. Je l'ai lu à l'âge de 20 ans. J'ai été effrayé. J'ai été effrayé par la difficulté de la langue, d'une certaine façon. Pas tout, bien sûr. Mais aussi par le côté insaisissable de l'auteur. Et je l'ai lu pendant 40 ans avant de le traduire. Je l'ai traduit, j'avais 50 ans. Et un jour, je me suis mis à ma table et en 6 mois. Vraiment, en 6 mois, j'ai fait ma traduction des Feuilles d'herbe. J'ai l'impression d'avoir bénéficié d'une... Enfin, on peut trouver ma traduction mauvaise ici ou là, mais j'ai l'impression d'avoir bénéficié d'une grâce, d'avoir été non pas inspiré, je ne crois pas à l'inspiration, je crois surtout au travail, Mais j'ai eu, d'une certaine façon, je parlais le Whitman. Et on ne peut pas faire la même chose avec Shakespeare, selon moi.